Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et Franck Ferrand nous attend sur un quai de gare au milieu des volutes de vapeur et je crois qu'il a un grand voyage à nous proposer. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. C'est vrai, la loco est déjà sous pression. Regardez ces splendides voitures laquées bleu nuit, constellées d'insignes et d'inscriptions dorées. Compagnie internationale des wagons-lits. Ce train de légende qui n'attend plus que nous pour se mettre en route, c'est l'Orient Express. Un univers à lui tout seul et qui, vous allez voir, nous réserve pas mal de surprises.
Alors assurez-moi Franck, vous n'allez pas faire le voyage tout seul.
Ah bah bien sûr que non, puisque vous êtes là Julia et que j'ai aussi convié pour nous accompagner à ce voyage inaugural l'un des plus grands spécialistes vivants de l'Orient Express ainsi que son actuel propriétaire.
Alors j'ai envie de dire, en voiture tout le monde et si vous avez des questions ou des réactions n'hésitez pas à nous joindre par l'intermédiaire du site europe1.fr.
Allez, au revoir la gare et ses fumées, à nous le Grand Sud et Constantinople.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Ne se ressemblent pas. Et celle qui se presse sous nos yeux en cette soirée historique a quelque chose de plus brillant, cette foule, de plus coloré, de plus joyeux sans doute aussi que la plupart des foules. Regardez ces plumes et ces aigrettes qui dépassent de la forêt des hautes formes et des casquettes à galons dorés. Aux accents cuivrés de l'orchestre, tout un peuple de valets en livrée achemine des malles imposantes au milieu de messieurs barbus à redingotes. Il y a là des hauts fonctionnaires, des représentants des différentes compagnies ferroviaires, quelques hommes d'affaires et bien sûr des journalistes. C'est à l'académicien Edmond Abou que l'on devra la relation la plus complète de ce premier voyage. Vous allez me dire, pas beaucoup de femmes dans tout ça, et pour cause. C'est la particularité un petit peu triste de ce voyage inaugural. Le train express d'Orient, c'est son nom pour le moment, n'emmènera cette fois que des messieurs. La compagnie des wagons-lits a jugé que le voyage était bien trop dangereux, chaotique, en tout cas sur la portion du trajet qui va traverser les Balkans pour que l'on admette en toute sécurité des dames à bord. Du reste, les passagers qui s'apprêtent à partir dans un joli claquement de portes cuivrées, tous les passagers sont armés de revolvers. Finalement, vous voyez que l'ambiance n'est peut-être pas aussi festive qu'on aurait pu le croire. Il est un peu plus de 19h ce jeudi 4 octobre 1883 et nous sommes à la gare de Strasbourg qui prendra plus tard le nom de gare de l'Est. Ça y est, la machine est sous pression, le convoi va pouvoir s'ébranler et derrière la locomotive et son tender, vous savez où s'entasse le charbon, on a accroché deux wagons-lits, deux voitures-restaurants et deux fourgons à bagages. Les voitures mesurent à cette époque 17,5 mètres de long. Elles sont en bois de teck, sont des voitures bien aérées et bien plus que celles auxquelles on était jusqu'alors habitué. Elles sont éclairées au gaz, elles sont chauffées par tout un système ultra-moderne de tuyaux où circule de la vapeur. À peine le train a-t-il quitté Paris que l'on va servir le premier dîner. Messieurs les voyageurs, le dîner est servi. Dans un article d'Historia bien connu des amoureux du rail et qu'il reprend en partie dans son dictionnaire amoureux des trains, mon ami Jean Descartes a décrit les moindres détails du voyage inaugural de ce qui va devenir l'Orient Express, à commencer par ce premier dîner, je le cite. Un wagon-restaurant, ou plutôt un rêve. Plafond avec cuir repoussé de cordoue, mur avec tapisserie des gobelins, rideau de velours de Gênes, c'est incroyable. Il y a mieux. Baissons les yeux. Voici des nappes immaculées, une argenterie gravée, des seaux à champagne garnis, des carafes de cristal où un vieux Bordeaux se décante. D'ailleurs, le correspondant du Times est lyrique. Blancheur des nappes, écrit-il, et des serviettes pliées avec un goût coquet, scintillement transparent des cristaux, rubis du vin rouge, topaze du vin blanc, pur cristal de l'eau à travers les carafes, casque argenté des bouteilles de champagne. Asseyons-nous, nous propose Jean Descartes. Le chef, un bourguignon barbu, est dans ses petits souliers. Tous les plats qu'il va servir sont cuisinés à bord. Là aussi, il y a de quoi être émerveillé. Le raffinement de la chair s'accorde au bouquet des grands crus. Edmond Abou relève que le premier soir, le service n'est pas parfait. Je le cite, « soit que le cuisinier n'eût pas encore ses coudées franches dans l'armoire qui lui sert d'atelier, soit que les domestiques fussent un peu déconcertés par l'abondance et l'opulence d'un matériel neuf, soit peut-être tout bonnement parce que les invités se trouvaient trop bien à table et s'amusaient plus que de raison à lier connaissance le verre à la main. » Cette dernière hypothèse est certainement la bonne. Au dessert, le chef, coiffé de sa toque, est applaudi bruyamment. Les hommes se lèvent, certains pour se rasseoir à l'autre bout de la voiture aménagée en fumoir. D'autres vont respirer l'air de la nuit sur les plateformes qui séparent les voitures. D'autres, enfin, se retirent pour savourer le confort de leur lit. Un lit dont Edmond Abou nous dit qu'il est douillet comme celui d'une garçonnière pour roman de Maupassant. Il est rare, au cours d'une première nuit en train, qu'on dorme très bien. Mais en l'occurrence, le confort des couchettes fait peut-être oublier à ces voyageurs privilégiés que la puissante loco du nouveau roi du rail les entraîne à la vitesse vertigineuse pour l'époque de 65 km/h.
La locomotive va vite, la locomotive va fort. À chaque virage, elle évite un contrefort. Les attelages la suivent, les attelages l'escortent. Et quand le rail dérive, le monde dort. Oh, c'est comme si c'était moi qui avais.
Raphaël sur Europe 1 avec sa locomotive.
Et l'Orient Express à ses tout débuts n'était peut-être pas très rapide, mais au moins il roulait sans à-coups. Au cours d'un dîner, on a vu le directeur de la compagnie réclamer le silence et au moment où le train roulait pourtant à plein régime, il a tenu à bout de bras un verre rempli à ras-bord sans qu'une goutte en déborde. Fini les estafilades au menton des voyageurs dues à des coupures de rasoir, fini les mini-catastrophes où les mêmes voyageurs perdant l'équilibre se retrouvaient, vous savez, sur les genoux du voisin. Qu'on se le dise, le nouveau palace roulant est stable et qui plus est presque silencieux. On entend juste un léger padam, padoum aux intersections de rails. Faut savoir que ces intersections à l'époque étaient beaucoup plus courtes, beaucoup plus rapprochées que de nos jours. De quoi juste bercer les voyageurs. Et le paysage défile en douceur. Les forêts de feuillus cèdent peu à peu la place aux forêts de résineux. Le relief s'accentue, les maisons changent insensiblement. C'est ça le plaisir d'un voyage en train, c'est de voir le paysage changer sans bouger soi-même, ou en tout cas en ayant l'impression de ne pas bouger. Pas loin de Munich, premier incident, on aperçoit de la fumée, une fumée assez inquiétante qui se dégage du dessous du wagon restaurant. Les dîneurs s'émeuvent. « Aucun souci, messieurs !» les rassure le premier maître d'hôtel. « Seulement un frein qui a chauffé. » Tout de même, il va falloir remplacer la voiture par une autre, un rien moins luxueuse. Qu'à cela ne tienne, l'épopée continue, par Vienne jusqu'au Danube. Alors on a contourné les Alpes, on longe le fleuve majeur de l'Europe, on dépasse Budapest, à Tsigani, village bien nommé de Hongrie, une troupe de musiciens tziganes vient donner la sérénade aux voyageurs. Et dès le dimanche 7 octobre, le tout nouveau, le tout beau train express d'Orient fait une entrée plus que remarquée dans la gare de Bucarest. Les voyageurs sont invités à ce moment-là à une excursion, histoire de prendre un peu de champ. Ou quand je dis excursion, il s'agit d'une partie de campagne organisée à leur intention par le roi et la reine de Roumanie en personne, dans leur résidence d'été de Sinaïa. En mettant pied sur le quai, les convives sont de belle humeur. Un homme les observe d'un air satisfait. À 38 ans, George Nagelmackers est le fondateur de la compagnie des wagons-lits. C'est en vérité l'artisan de toute cette aventure. Et si je ne vous en ai pas parlé plus tôt, c'est parce que j'avais bien l'intention de m'arrêter un moment sur son cas.
Orient Express, c'est déjà loin la France. Des jours, des nuits, des jours, doutes et joies tour à tour. Orient Express. Tout au long du parcours. Je vois tes yeux brillants, accoudés à ce bar. Je serais presque indécent entre vodka et cigare. C'est beau ce désert blanc.
Indigo sur Europe 1 avec Orient Express. C'est l'histoire de ce palace roulant que Franck vous raconte aujourd'hui sur Europe 1. Évidemment, vous ne bougez pas, vous restez avec nous.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Avec un récit qui s'intéresse aujourd'hui sur Europe 1 à l'Orient Express et à son fondateur, Franck.
Mais oui, Julien, on ne peut pas évoquer la saga légendaire de l'Orient Express sans présenter celui par qui tout est venu, ce George Nagelmakers, dont l'histoire, pourtant, a presque oublié le nom. Voilà un jeune Belge de très bonne et très riche famille. Les Nagelmakers, c'est une véritable dynastie de financiers et d'hommes politiques. À Liège, la banque Nagelmakers est la plus ancienne de Belgique. George est né en 1845, à Liège. Il s'inscrit volontiers dans cette lignée. Il a suivi de brillantes études d'ingénieur. Et puis, soudain, patatras, en 1865, il a donc 20 ans, il tombe amoureux, mais alors éperdument amoureux, d'une femme nettement plus âgée et qui se trouve être sa cousine Germaine. Vous imaginez un peu le scandale dans la famille, l'opposition résolue des parents. Monsieur Nagelmakers père fait cesser le scandale. Il décide d'envoyer son rejeton dévoyé de l'autre côté de l'Atlantique, histoire de lui changer un peu les idées. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette initiative paternelle, pour autoritaire qu'elle paraisse, va se révéler salutaire. Vous connaissez le proverbe « loin des yeux, loin du cœur ». Non seulement le jeune George oublie assez vite celle qu'il croyait être la femme de sa vie, mais il se découvre dans ses États-Unis en pleine guerre de sécession une véritable passion pour le chemin de fer. Et si l'on veut être plus précis, ce qui fascine Nagelmakers, c'est l'idée, à l'époque totalement inouïe en Europe, l'idée qu'a eue un certain George Mortimer Pullman, installer le luxe et même le grand luxe à bord des trains. Évidemment, dans l'ancien monde, certaines voitures d'État destinées à la reine Victoria ou à l'impératrice Eugénie pouvaient à la même époque rivaliser avec de très beaux salons. Mais pour l'immense majorité, pour la quasi-totalité des voyageurs, même fortunés, le confort des trains de l'époque restait plutôt rudimentaire. C'est l'Américain Pullman qui a eu l'idée de créer de vastes voitures bien insonorisées, bourrées de miroirs, de bois précieux, de fauteuils archi-capitonnés et comportant aussi des lits, ce qui permet aux voyageurs fortunés de dormir pendant le voyage. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les déplacements sont souvent très longs. Ce faisant, Pullman allait révolutionner l'image du train au sein des catégories privilégiées. Le jeune Belge a été ébloui pour sa part par ce qu'il a vu là. Il trouve l'idée fabuleuse et dès son retour en Belgique au printemps 1869, il se met en tête d'imposer en Europe l'idée de ces luxueux wagons-lits. L'époque, c'est moins qu'on puisse dire, n'est évidemment pas très favorable. L'Europe est bientôt secouée par la guerre. Comme l'avaient été les États-Unis juste avant elle. Cette guerre, c'est la terrible guerre franco-prussienne de 1870. Il n'empêche que dès l'automne 72, George n'en fonde pas moins la compagnie internationale de wagons-lits. À l'époque, on ne dit pas encore « des », et pour cause, au départ, il n'y a jamais que 5 voitures avec 2 essieux chacune. Vous voyez, ça reste encore assez modeste tout ça. Assez vite, quand je dis assez vite, très vite, le succès s'impose. Les compagnies veulent avoir leurs hôtels roulants sur toutes les grandes lignes et cette nouvelle façon de voyager va modifier de fond en comble les habitudes. Plus question notamment de changer de train à chaque fois qu'on passe une frontière. Jusqu'alors, c'était comme ça. On peut parler désormais du début des voyages internationaux et c'est ainsi qu'en 1883, donc, est fondé l'Orient Express, ce train express d'Orient dont je vous parle depuis tout à l'heure. C'est pour cela, vous m'avez compris maintenant, que M. Nagelmakers accompagne son premier lot de voyageurs au moment de ce mythique voyage inaugural. Nous avions laissé les premiers passagers de l'Orient Express à leur partie de campagne royale, rappelez-vous, chez le roi et la reine de Roumanie. Une fois rentrés de la charmante escapade, on peut dire que les choses vont se corser. La portion facile et luxueuse du trajet est terminée. C'est maintenant l'aventure qui commence.
Thank you.
principale du film de Sidney Lumet sorti en 1974, Le Crime de l'Orient Express.
Et oui, vous savez que Dame Agatha Christie va faire de l'Orient Express le décor d'un des plus célèbres romans où intervient Hercule Poirot. Nous y reviendrons bien entendu dans la seconde partie de cette émission. Alors, les voyageurs, je vous l'ai dit, ont dû quitter les belles voitures lambrissées de l'Orient Express pour embarquer, tant bien que mal, sur un vapeur qui va leur faire traverser le Danube. Et à partir de là, c'est plus la compagnie des wagons-lits qui opère en 1883, c'est celle des chemins de fer orientaux. Et ce n'est plus tout à fait la même musique. Le train part déjà avec beaucoup de retard. Il faut 7 heures pour atteindre Varna, bienvenue en Bulgarie. Je cite à nouveau Jean Descartes. « Deux sortes de dangers, nous dit-il, guettent le train. D'abord, les bœufs. Qui errent librement et qui ont la fâcheuse habitude de brouter l'herbe pauvre entre les rails. La voie n'est protégée par aucune barrière. Le mécanicien dérange les troupeaux à coups de sifflet quasi permanents. La machine est munie d'un chasse-pierre qui peut balayer un bœuf récalcitrant. C'est la conquête de l'Est. » L'autre danger n'est pas mince. Les brigands de Bulgarie remplacent les Indiens du Nouveau-Mexique et ce ne sont pas les trains qu'ils attaquent, mais les gares. À ce récit, lors d'un arrêt, les passagers de l'Orient Express ont la gorge serrée. Prudemment, les messieurs passent leur revolver dans leur ceinture après avoir dégagé le cran de sûreté. La machine fait de l'eau, mais les bandits ne se montrent pas. Quand le convoi repart, les messieurs regagnent leur place, non sans passer un doigt entre leur col de chemise et leur cou. « Ils ont eu chaud, nous dit Jean Descartes. » Par la suite, les voyageurs sont transférés sur un vapeur autrichien qui va les ballotter pendant une bonne quinzaine d'heures de traversée jusqu'à Constantinople. Nos aventuriers, malgré eux, ont somme toute peu de temps pour rêvasser sur les rives enchantées du Bosphore. Car dès le 13 octobre, les voilà repartis pour le voyage de retour. Après tout, c'est un voyage inaugural, il ne s'agit pas d'aller passer un mois à Constantinople. Le même vapeur, le même train plutôt spartiate, le même ferry qu'à l'aller leur valent de nouveau quelques émotions. Mais de retour en Roumanie, miracle, le merveilleux train de George Nagelmackers est là, flambant neuf, écrit Jean Descartes. La machine sous pression attend et voici nos voyageurs qui se réinstallent avec une véritable joie. C'est une citation d'un des témoins. Banquette en velours bleu frappé d'or, table d'acajou, robinet de bronze, lit douillet, tout est là, il n'avait pas rêvé. Et la cuisine, et la cave, et un personnel en tout point digne d'éloge, il ne manque pas un pompon, pas une frange au rideau douillet qui transforme le train en écrin prestigieux. Le luxe déjà extraordinaire du convoi éclate davantage. Quelle différence ! Nos voyageurs n'en doutent pas un instant. Ils viennent de retrouver la civilisation. Ce voyage inaugural de l'Orient Express, un peu épique, allait être suivi de milliers d'autres, de mieux en mieux réglés, évidemment, de plus en plus luxueux. Quels seront les grands moments de ce train, ses passagers les plus célèbres, ses incursions dans la littérature? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans un instant, en compagnie de Jean Descartes, bien évidemment, et de Michel Fremder.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et nous retraçons aujourd'hui sur Europe 1 l'histoire du plus luxueux, du plus prestigieux train de tous les temps, l'Orient Express.
Je suis un obsédé du train, avoue Jean Descartes dans le prologue de son merveilleux dictionnaire amoureux des trains, chez Plon évidemment. Il ajoute un férivopathe qui n'a aucune intention de se soigner. Bonjour Jean Descartes.
Bonjour.
Est-ce
Franck.
Que je peux vous demander d'où vous vient cette espèce de fièvre incurable du rail ?
C'est malheureusement une maladie de famille. Mon arrière-grand-père ne pouvait pas voir partir un train sans monter dedans. Il était le cauchemar de toutes les compagnies des années 1910, car le respect des horaires, le fait que les gens en troisième classe n'aient pas de quai pour descendre, la sécurité des voyageurs, etc., il était absolument incollable.
C'était ses marottes, en fait.
Et ce qui est drôle, c'est qu'il avait été surnommé déjà Descartes, alors que son descendant, mon père Guy Descartes, qui s'est surnommé ainsi lui-même, donc nous révélons un grand amour des trains dans la famille.
Et vous racontez dans le prologue de ce dictionnaire amoureux que votre enfance a été littéralement illuminée par de grands voyages dans toutes sortes de trains différents.
Évidemment. Oui, alors il y avait les trains de famille pour les vacances avec mes cousins et mes grands-parents dans les Hautes-Alpes, c'était le Paris-Briançon. une épopée. Et évidemment, avec les progrès de l'électrification, moi j'attendais, après Livron, c'est-à-dire au sud de Valence, la voie unique et la vapeur qui gardait encore ses droits dans les années 50 et 60. Et je guettais ma première escarbille, évidemment. C'était fascinant dans un décor de western, vers Gap, à travers le Dévoluy. C'était très, très beau. Et puis alors, il y avait la partie, quand j'avais été sage, qui était beaucoup plus rare, bien sûr, la partie du train bleu, du train très chic, Paris-Nice, Monte-Carlo, San Remo, quelquefois.
Un train peuplé de célébrités,
qui partait à 8h du soir et qui avait une voiture restaurant et une voiture bar dont le tenancier, en quelque sorte, disait « Mon bar est le plus chic que celui du Ritz. »
Eh oui.
Voilà. Et alors, j'étais autorisé à être installé sur un des tabourets. Et il y avait là Sacha Guitry, Coco Chanel, Walt Disney, Maurice Chevalier, etc.
Voilà. Non, je n'ai plus. Alors, on est très loin, évidemment, du voyage inaugural de 1883 pour le Orient Express, que je viens de raconter à grands traits. Ce voyage, on l'a vu, a été plutôt un cauchemar. Il va falloir attendre pas très longtemps, 5 ans et demi, 6 ans, pour que, dès 1889, existe complètement la ligne Orient Express Paris-Constantinople.
Mais Franck, il y a quelque chose d'abord, permettez-moi, qu'il faut préciser. Pourquoi ce train est-il totalement nouveau? C'est le premier train international au monde. C'est pas le transsibérien n'ira qu'à travers un seul pays, si j'ose dire, l'immensité russe. Les trains américains de la côte est à la côte ouest aussi. Mais là, il y a une dizaine de pays qui sont franchis. Et pour la première fois, le voyageur ne souffre pas de ce qu'on appelle en termes ferroviaires la rupture de charge, c'est-à-dire l'obligation de prendre une correspondance. Alors ça, c'est une nouveauté fantastique. On monte dans sa voiture à Paris et on descendra. Alors, il faudra attendre 1890 pour que la connexion soit complète. On descendra à Constantinople. Entre-temps, on aura eu 25 locomotives.
Alors, nous, ça nous paraît presque normal. Évidemment, à l'ère de l'avion, on prend l'avion comme une navette. Ça paraît presque évident, mais pour l'époque, effectivement, alors, c'est une révolution complète. C'est-à-dire que ça permet de voyager sans trop de fatigue.
En plus, il y a, outre les problèmes politiques, parce qu'entre le royaume de la reine Victoria et le sultan Abdulhamid en Turquie, il y a des différences politiques. La traversée des Balkans n'est pas sûre. C'est pour ça qu'on a demandé aux gens de prendre un revolver. Mais vous avez des différences techniques de signalisation, d'éclairage. Donc, il n'y a pas le chemin de fer. Il y a les compagnies de chemin de fer. Par exemple, dans l'Autriche-Hongrie, l'empereur François-Joseph a sa compagnie, l'impératrice Élisabeth
aussi. Les compagnies ne sont pas nationales pour la plupart.
Pratiquement pas. Quelques-unes, l'État de Bavière en a, l'État de Württemberg, mais ce sont des portions. Donc le pari de Georges Nagelmackers, ce génial personnage digne de Jules Verne, il faut bien le dire.
Oui, exactement, c'est un Phileas Fogg.
Ce Belge que je me flatte d'avoir fait entrer dans le dictionnaire Larousse en France, parce que il n'était pas connu, car sa raison sociale n'est pas comme Pullman, n'est pas devenue celle du voyage. Eh bien, ce Belge a vu très très loin en réfléchissant à des grands trains qui allaient de Saint-Pétersbourg à Lisbonne. Et en étant, je dirais, un pionnier des rêves actuels de lignes à grande vitesse qui vont se développer à travers les continents.
Comment fait-on pour entrer dans le Larousse? Il faut vous donner un petit chèque, Jean Descartes? On verra ça peut-être après l'émission.
Un très très gros et en blanc.
Alors, il y a évidemment, quand on parle de l'Orient Express, tout un mythe, toute une légende qui tient largement au prestige des voyageurs. Ça devient bientôt un must. Il faut avoir voyagé, c'est un peu comme le Concorde beaucoup plus tard, il faut avoir voyagé à bord de l'Orient Express pour faire partie des gens qui comptent.
Oui, d'abord, il faut rappeler que par rapport aux trains qui circulent sous les différents noms Orient Express aujourd'hui, on va en parler. Le train était très court. Pour des raisons techniques, les machines ne pouvaient pas tirer beaucoup de voitures. Alors, il y avait un fourgon, il y avait une voiture restaurant, deux voitures au maximum, plutôt cinq. Donc, qui étaient en bois et qui ne seront en métal qu'après 1920. Donc, ce train avance péniblement, mais il est toujours à l'heure. C'est une des fiertés de Georges Nagelmackers. Et Maurice Bellonte, l'un des grands aviateurs des années 30, le Coste Bellonte, Paris-New York, me racontait qu'étant employé par une compagnie d'aviation roumaine, où ils étaient perdus dans les nuages quelque part dans les Carpates, ils descendaient le plus bas possible et repéraient la fumée de la locomotive qui disait « lui, il est à l'heure ».
Ça servait
d'étalon,
en fait. Oui, c'est incroyable.
C'est incroyable.
Les passagers, je disais, sont des gens souvent très très connus, très importants. Ce sont les grands capitaines d'industrie. Ce sont
alors il y a de tout. Il y a des marins.
Parce qu'évidemment, il n'y a que des premières classes dans ce
Il va y avoir des secondes classes assez rapidement. Il y a des maharajas, il y a des lords anglais, il y a évidemment des espions, des agents secrets, des histoires d'amour. Ça fait partie de la mythologie parce que l'Orient Express traversait et traverse toujours, heureusement, dans des conditions plus paisibles, différents pays. Ça fait partie aussi de sa magie, la mosaïque de pays qu'un train réunit. Vous savez, Elvire Popesco, que j'ai bien connue, et qui était arrivée à Paris dans l'Orient Express, me dit « Tu sais, chérie, c'était formidable ce train, parce que l'Orient Express, c'était le luxe. Je leur ai dit, ça va très bien dans le sens Paris-Bucuresti. » Bucarest, mais dans l'autre sens, il devrait l'appeler l'Occident Express. Mais on m'a dit que j'avais un accent et que ça faisait l'Accident Express. Ils n'en ont pas voulu.
Il n'a pas eu d'ailleurs d'accident majeur. Il y a eu quelques, il y a quand même eu quelques incidents.
Il y a deux histoires véridiques, parce qu'il faut quand même être très prudent sur la mythologie inventée. Janvier 1929. Le train est bloqué à 130 km d'Istanbul par des congères et une tempête de neige. Il va subir un retard qui est, à mon avis, dans les records mondiaux, 5 à 6 jours, et sera dégagé par une locomotive chasse-neige américaine. Bon. Les passagers ont été tellement satisfaits de la qualité du personnel qui a fait tout ce qu'il pouvait pour essayer de sauver ces naufragés dans la neige. Inutile de vous dire que pour acheter un œuf chez un paysan turc, à ce moment-là, les prix ont monté assez rapidement. Il y avait les femmes d'un maharaja qui étaient assez peu vêtues, etc. Cet incident a fait le tour du monde dans la presse pour la honte des chemins de fer turcs. Et c'est ainsi qu'Agatha Christie a entendu parler de cette affaire vraie et qu'elle va s'en servir comme base du train immobilisé dans la neige. Donc c'est une histoire vraie.
Agatha Christie aimait beaucoup Constantinople et elle avait elle-même évidemment emprunté plusieurs fois
Et elle l'empruntera pour rejoindre celui qui va devenir son second mari, le professeur Max Mallowan d'Oxford, un archéologue spécialisé dans la Mésopotamie. D'ailleurs, elle s'est passionnée pour cette période de l'Antiquité et au point qu'elle a écrit un roman policier qui s'appelle They Came to Baghdad, Les Inconnus de Bagdad. Et lorsque beaucoup plus tard, une de ses nièces lui dira « Tante Agatha, je vais me marier. Ah bon, qui vas-tu épouser ? Un homme qui est dans la bourse à la City, tu as tort, ma chérie. Tu devrais épouser un archéologue parce que plus tu vas vieillir, plus il va t'aimer. »
Au cœur de l'histoire, reviens dans un instant sur Europe 1.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Dans le train de nuit, il y a des fantômes qui me sourit quand nous passons sur les prairies. Dans le train de nuit, il y a des royaumes, et puis du bruit, et puis Paris au bout de la nuit. Les souvenirs si tendres viennent s'y faire entendre. J'entends la voix des flots enchanteurs qui font au fond de mon cœur des sérénades. J'entends le triste appel des bateaux et la chanson des oiseaux sur l'esplanade. Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant. J'entends la ville qui me dit bonsoir. Et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
Très Charles Trenet hein, cette semaine.
Mais oui, mais c'est un grand monsieur de la chanson française.
Et c'est tellement beau.
En quittant la ville.
Dans le train de nuit, il y a des fantômes. Il y avait beaucoup de fantômes à bord de l'Orient Express et pas seulement ceux créés par la plume d'Agatha Christie. C'est un train qui fait irrésistiblement penser à des questions politiques, à des questions d'espionnage. Qu'advenait-il pendant les périodes de guerre,
Alors,
Jean Descartes ?
Alors, je dirais que la circulation de l'Orient Express, qui va tout de suite être un train et une famille de trains assez rapidement, puisqu'il y aura le Simplon Orient Express, qui est le seul train créé par le traité de Versailles, puis l'Arlberg Orient Express, c'est-à-dire des voies intermédiaires au nord de la Suisse, au nord de l'Italie, etc. Bien, La température politique est prise par l'Orient Express. Vous avez d'ailleurs le merveilleux film d'Hitchcock qui s'en nommait le train, une femme disparaît.
Le Lady Vanishes.
Voilà, les frontières sont menacées, des dictatures sont constatées en pleine effervescence, etc. Bon, disons que à chaque fois, les pays en guerre vont lutter. Il y aura des faux Orient Express. L'Allemagne d'Hitler va faire un Balt Orient Express, un Berlin-Istanbul qui n'a rien à voir sauf une certaine qualité, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça a été le grand train, je dirais, de la guerre froide.
Oui, bien sûr.
Et que dans les années 50, très exactement en 57, le seul mort officiel de l'Orient Express, en quelque sorte, est un officier d'enseignement américain, un diplomate à Bucarest, qui s'appelait le capitaine Eugène Karp, que l'on a retrouvé écorché et tiré sous un tunnel près de Salzbourg, à peu près sur 500 mètres, je vous passe les détails. On a pu reconstituer son itinéraire, il essayait de fuir la Roumanie communiste et il avait rencontré une ravissante madone qui était tous les soirs face à lui au wagon-restaurant pendant les trois jours du voyage. Bon, ça c'est une histoire vraie. En fait, ce train a suscité des fantasmes, il y a beaucoup de choses fausses qui ont été écrites, mais il y a beaucoup de choses vraies, parce que la magie de ces pays différents, et je crois, est à la base de la renaissance aujourd'hui des différentes formes d'Orient Express.
C'est-à-dire qu'on a cru, au moment, on va dire au tournant des années 70, oui, on a cru que ces trains-là étaient évidemment condamnés, que c'était terminé, alors, l'avion et puis les trains rapides
allaient remplacer. Alors vous savez, moi j'ai écrit à ce moment-là, j'ai dit, il y aura une nouvelle bataille du rail,
oui,
qui sera double. Elle sera la bataille de la grande vitesse que Louis Armand avait initiée en disant « il faut que les trains aillent de plus en plus vite ». Mais en même temps, je disais, il y aura les amoureux, pour ne pas dire les nostalgiques, d'un voyage plus lent, plus stylé, un peu à l'ancienne, dans un autre matériel. Ça n'est pas du tout incompatible, n'est-ce pas ?
Marie-France nous dit, c'est un message, une auditrice, elle nous dit « j'aurais tant aimé prendre cet Orient Express au temps de sa splendeur ». On peut encore aujourd'hui prendre splendidement l'Orient Express.
C'est très simple, mais je vais passer la parole à votre autre invité. Mais disons que en 77, on a annoncé un peu abusivement, j'ai fait une série sur TF1 à ce moment-là, la fin de l'Orient Express. Je me suis élevé contre ça parce que c'était la fin de la liaison directe en wagon-lit Paris-Istanbul, ce qui n'était pas tout à fait la même chose. Puis le mot Orient Express aujourd'hui est propriété de la SNCF. Bon, ce qui a été rétabli, restauré et recréé et réinventé s'appelle, premièrement, on va dire chronologiquement, le Venise Simplon Orient Express, mmh, qui part de Boulogne, passe par Paris, va vers Venise, quelquefois va vers Istanbul, vers Florence, vers Prague, etc. Dans un matériel.
Donc là, il y a des voitures couchettes, là.
Alors des voitures lits.
Des voitures lits, pardon, oui.
Et une cuisine merveilleuse à bord, c'est le seul train qui fasse partie de la chaîne des, n'est-ce pas, des hôtels et relais. Donc ça, c'est une chose. Et puis il y a d'autres trains, je ne parle pas des trains croisières qui roulent une fois de temps en temps, et il y a le matériel de la compagnie de wagons-lits qui n'a pas été acquis par ce propriétaire, le VSOE, et qui vient d'être racheté.
Qui appartenait au groupe Accor et qui a été racheté par la SNCF. Et donc voilà, nous avons avec nous Michel Fremder, qui dirige la société des trains Exposition, dont nous avons si souvent parlé à ce micro. On a parlé du train Léonard de Vinci, du train Littérature récemment, et qui donc gère ces 7 voitures de l'Orient Express rachetées au groupe Accor il n'y a pas très longtemps par la SNCF.
Il y a deux mois et demi. Je crois que Guillaume Pépi, président de la SNCF, a pensé qu'effectivement il fallait reprendre ce matériel parce que moi je me suis basé sur une citation de l'ingénieur Hispano Souza qui dit « le futur a besoin de sa légende ». Et je crois qu'à partir du moment où nous avons le record du monde de vitesse avec 574 km/h, il faut le rappeler,
ça,
avec
le TGV, oui.
Eh bien il faut aussi avoir le patrimoine ferroviaire, et le patrimoine ferroviaire c'est l'Orient Express.
Mais je me réjouis, cher monsieur, de votre langage, car malheureusement, dans cette grande maison, ça n'a pas toujours été le cas.
Bah non, ça n'a pas été le cas, notamment, vous parliez des années 70. Moi, je disais à l'époque qu'on avait oublié la glace plombière pour la remplacer par les voitures gris express. Et c'était le tout avion. Il fallait, je vous rappellerai d'ailleurs, que les voitures Corail ont été créées en 1973 avec un couloir unique pour ressembler à un couloir d'avion. Si on avait pu y mettre des ailes, on aurait peut-être
Des
ailes.
Des gens de chez vous m'ont dit non, maintenant, il faut des avions qui roulent. Et je regrette que les trains français, pardon de le dire, en dehors de ce beau train de luxe, soient les seuls au monde, dans un pays civilisé où il n'y ait plus la moindre gastronomie, la moindre restauration digne de ce nom.
Ça,
aller
faudra,
en Suisse, aller en Allemagne, en Italie,
entière,
c'est vraiment grave pour notre civilisation.
Nous n'avons d'ailleurs pas évoqué la question gastronomique à bord de l'Orient Express. Moi, je l'ai fait en vous citant, d'ailleurs, Jean Descartes dans la première partie de l'émission. Mais
il
y a des gens qui montaient à bord du train
uniquement pour déjeuner.
Oui, c'est ça. Oui, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, Michel Fremder, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que la SNCF compte faire de ces 7 voitures de l'Orient Express dans lesquelles ne figurent pas, je le précise, de voitures lits? Donc,
voilà,
on ne peut pas faire de voyage.
Aujourd'hui, les voyages vont être des voyages de jour. Et ce que nous souhaitons, nous sommes en train d'y réfléchir aujourd'hui, c'est que le plus grand nombre de nos compatriotes puissent voir ces voitures et voyager à l'intérieur. Alors, il y a bien sûr les possibilités pour les entreprises de l'utiliser et de faire de voyages ce qu'on appelle incentive, ça c'est tout à fait possible, mais j'aimerais que nous puissions aussi développer des événements et autour de ces événements, ça peut être aussi bien pour la Saint-Valentin que pour la fête des mères, que pour la Coupe du Monde de football ou pour la Coupe de Rock qui aura lieu en France dans les années à venir. Tous ces événements doivent permettre au grand public de venir à bord de ce train et d'admirer ces voitures qui sont exceptionnelles.
Pardonnez-moi, il ne faut pas briser le rêve, il faut le prolonger, hein, parce que ces voitures
bien
ont une mémoire,
mais bien
elles
évidemment.
Ont une histoire.
Mais dites-vous bien, Monsieur Descartes, que si nous avons décidé de reprendre ce train, c'est pour lui redonner une vie et lui redonner vie de ce passé.
Quel est le décor de ces voitures? On a du Lalique, évidemment, des marqueteries extraordinaires.
Il y a du Lalique, il y a
du Lalique, c'est du cristal. Hein,
bien sûr.
Ils ont été superbement restaurés, il faut le dire.
Absolument. Vous savez, Lalique, on l'appelait d'ailleurs le Rodin des transparences.
C'est ça, oui.
C'est la marqueterie
de cristal.
Voilà. J'ai même appris tout dernièrement que les fauteuils avaient été faits par l'épouse de Madame Lalique. C'est elle qui avait créé le décor de ces fauteuils. Alors, nous n'avons absolument pas l'intention de bouger ces voitures qui sont d'ailleurs classées monuments historiques. Elles ont été complètement réaménagées sur le plan technique puisqu'elles sont aptes à rouler à 160 km/h. Il faut savoir que 160 km/h, c'était une vitesse de pointe il y a encore une quinzaine d'années. Eh bien, avant le TGV. Donc, nous allons laisser bien sûr tout ce caractère de rêve, et ce que je souhaite avec Edith Rebillon qui aujourd'hui va diriger ce département, c'est pouvoir permettre de redonner ce rêve et de permettre aussi bien à la personne la plus humble qu'à la plus fortunée de voyager, comme on vient de le faire dans un voyage dimanche dernier avec Gonzague Saint-Brice pour la Forêt des Livres, de redonner ce lustre d'antan et de vivre pendant 2 heures, 3 heures ou 4 heures un voyage de rêve.
Paul nous demande par mail pourquoi depuis quelques temps, c'est vrai que ça fait 2 émissions de suite, j'emploie le mot Constantinople en lieu et place d'Istanbul. Parce que Istanbul, tout simplement, c'est le nom de la capitale de la Turquie. D'ailleurs, c'est pas sa capitale, mais de la plus grande ville de Turquie, de cette métropole historique.
C'est Ankara maintenant.
C'est Ankara la capitale. Mais Constantinople est bien le nom historique, et d'ailleurs sur toutes les affiches de l'Orient Express, etc.
Oui, c'est très amusant. Istanbul n'est qu'un quartier de Constantinople.
Exactement, c'est ça. Fait. L'Orient Express, un siècle d'aventure ferroviaire de Jean Descartes et Jean-Paul Caracalla, c'était, devrais-je dire, un superbe album aux éditions de Noël qui fait littéralement rêver. Alors là, on est dans ces grands voyages et dans cette mythologie, dans cette légende.
On peut le trouver encore difficilement, mais c'était un très beau livre.
Oui, les gens qui sont habitués à cliquer, à aller chercher sur certains sites internet vont sans doute pouvoir
Dire pour les amateurs, je prépare pour 2012 un transsibérien spécial.
Ah, c'est bien ça.
Même ordre, je ne ferai pas de publicité à l'antenne bien sûr, mais pour les gens qui seraient intéressés, je vais laisser les renseignements parce que ça sera un Pékin-Moscou exceptionnel.
Vous viendrez nous en parler si vous êtes d'accord, Jean Descartes, et
avec
ça fera une occasion de vous citer. Dictionnaire amoureux des trains chez Plon, c'est le très beau livre que vous consacrez non seulement à ce mythique Orient Express, mais à tous les grands et petits trains, parce que lorsqu'on a la passion du rail, finalement, c'est la passion de tous les trains.
Absolument.
Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Bonjour Elena Morna.
Bonjour Franck, vous allez bien?
Mais oui, très
J'aimerais
bien.
J'aimerais savoir, est-ce que dans l'Orient Express, dans les salles de bain de l'Orient Express, il y avait des produits de beauté pour hommes?
Il y avait en tout cas...
Comme on en trouve parfois dans les hôtels.
Il y avait d'abord, les salles de bain de l'Orient Express ont été extrêmement rares. L'Europe a été très en retard sur les trains américains à ce point de vue-là. Et même sur d'autres trains, par exemple en Afrique du Sud. Donc ça, c'est un sujet à explorer.
Eh bien, nous allons aller dans nos salles de bain et s'interroger sur la cosmétique. Les hommes sont-ils des femmes comme les autres?
Merci Elena Morna. Nous nous retrouvons demain, Julia.
Avec plaisir sur Europe 1 où il est 14h. Merci à tous de votre confiance. Et on fait un point maintenant sur l'actualité avec Axel May. Bonjour Axel.